Chapitre 13. On alluma des feux sur la colline, en avant de Großgorchen. Un détachement descendit au village et nous en ramena 5 ou 6 vieilles vaches pour faire la soupe. Mais nous étions tellement fatigués qu'un grand nombre avait encore plus envie de dormir que de manger. D'autres régiments arrivèrent avec des canons et des munitions. Vers 11 heures, nous étions là, 10 ou 12 000 hommes, et dans le village, 2 000, toute la division sous âme. Le général et ses officiers d'ordonnance se trouvaient dans un grand moulin, à gauche, près d'un cours d'eau qu'on appelle le Flossgraben. Les sentinelles s'étendaient autour de la colline, à portée du fusil. Je finis aussi par m'endormir, à cause de la grande fatigue. Mais toutes les heures, je m'éveillais, et derrière nous, du côté de la route, qui part du vieux pont de Poserna et s'étend jusqu'à Lutzen et à Leipzig, j'entendais une grande rumeur dans la nuit. Un roulement de voitures, de canons, de caissons, montant et s'abaissant au milieu du silence. Le sergent Pinto ne dormait pas. Il fumait sa pipe en séchant ses pieds au feu. Chaque fois que l'un ou l'autre remuait, il voulait parler. « Eh bien, conscrit !» disait-il. Et on faisait semblant de ne pas l'entendre. On se retournait en bâillant et l'on se rendormait. L'horloge de Großgorchen tintait 5 heures lorsque je m'éveillais. J'avais les os des cuisses et des reins comme rompus à force d'avoir marché dans la vase. Pourtant, en appuyant les mains à terre, je m'assis pour me réchauffer car j'avais bien froid. Les feux fumaient, il ne restait plus que de la cendre et quelques braises. Le sergent debout regardait la plaine blanche où le soleil étendait quelques lignes d'or. Tout le monde dormait autour de nous, les uns sur le dos, les autres sur l'épaule, les pieds au feu, plusieurs ronflaient ou rêvaient tout haut. Le sergent, me voyant éveillé, vint prendre une braise et la mit sur sa pipe, puis il me dit « Eh bien, fusillé Bertha, nous sommes donc à l'arrière-garde maintenant ?» Je ne comprenais pas bien ce qu'il entendait par là. « Ça t'étonne, conscrit » fit-il. « C'est pourtant assez clair. Nous n'avons pas bougé, nous autres, mais l'armée a fait demi-tour. Elle était là hier, devant nous, sur le rempart. À 7 heures, elle est derrière nous, près de Lutzen. Au lieu d'être en tête, nous sommes en queue. » Et clignant de l'œil, d'un air malin, il tira 2 ou 3 grosses bouffées de sa pipe. « Et qu'est-ce que nous y gagnons ?» lui dis-je. « Nous y gagnerons d'arriver à Leipzig les premiers et de tomber sur les Prussiens, » répondit-il. « Tu comprendras ça plus tard, conscrit. » Alors je me dressai pour regarder le pays, et je vis devant nous une grande plaine marécageuse traversée par la Grunabar et le Flossgraben. Quelques petites collines s'arrondissaient au bord de ces cours d'eau, et au fond passait une large rivière, que le sergent me dit être l'Elster. Les brouillards du matin s'étendaient sur tout cela. M'étant retourné, j'aperçus derrière nous, dans le vallon, la pointe du clocher de Großgorchen, et plus loin, à droite et à gauche, 5 ou 6 petits villages bâtis dans le creux des collines, car c'est un pays de collines, et les villages de Kaya, d'Eisdorf, de Starsiedel, de Rana, de Kleingorchen et de Großgorchen, que j'ai connus depuis, sont entre ces collines, sur le bord de petites mares où poussent des peupliers, des saules et des trembles. Großgorchen, où nous bivaquions, était le plus avancé dans la plaine du côté d'Elster. Le plus éloigné était Kaya, derrière lequel passait la grande route de Lutzen à Leipzig. On ne voyait pas d'autres feux sur la colline que ceux de notre division. Mais tout le 3e corps occupait les villages et le quartier général était à Kaya. Vers 6 heures, les tambours battirent la diane. Les trompettes des artilleurs à cheval et du train sonnèrent le réveil. On descendit au village, les uns pour chercher du bois, les autres de la paille ou du foin. Il arriva des voitures de munitions et l'on fit la distribution du pain et des cartouches. Nous devions rester là pour laisser défiler l'armée sur Leipzig. Voilà pourquoi le sergent Pinto disait que nous serions à l'arrière-garde. 2 cantinières arrivèrent du village, et comme j'avais encore 5 écus de 6 livres, j'offris un petit verre à Klipfel et à Zébédé pour abattre les brouillards de la nuit. Je me permis d'en offrir un aussi au sergent Pinto, qui l'accepta disant que l'eau-de-vie sur du pain réchauffe le cœur. Nous étions tout à fait contents, et personne ne se serait douté des terribles choses qui devaient s'accomplir en ce jour. On croyait les Russes et les Prussiens bien loin à nous chercher derrière la Grunabar, mais ils savaient où nous étions. Et tout à coup, sur les 10 heures, le général Souham, au milieu de ses officiers, monta à la côte ventre à terre. Il venait d'apprendre quelque chose. J'étais justement en sentinelle, près des faisceaux. Il me semble encore le voir, avec sa tête grise et son grand chapeau bordé de blanc, s'avancer à la pointe de la colline, tirer une grande lunette et regarder, puis revenir bien vite et descendre au village en criant de battre leur appel. Alors, toutes les sentinelles se replièrent, et Zébédée, qui avait des yeux d'épervier, dit « Je vois là-bas, près d'Elster, des masses qui fourmillent. Et même, il y en a qui s'avancent en bon ordre, et d'autres qui sortent des marais sur trois ponts. Quelle averse, si tout cela nous tombe sur le dos !»« Ça, dit le sergent Pinto, le nez en l'air et la main en visière sur les yeux, c'est une bataille qui commence, ou je ne m'y connais pas. Pendant que notre armée défile sur l'Absie et qu'elle s'étend à plus de 3 lieues, ces gueux de Prussiens et de Russes veulent nous prendre en flanc avec toute leur force et nous couper en deux. » C'est bien vu de leur part. Ils apprennent tous les jours les malices de la guerre. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire ? Demanda Klipfel. C'est tout simple, répondit le sergent. Nous sommes ici 12 à 15 000 hommes, avec le vieux Souham, qui n'a jamais reculé d'une semelle. Nous allons tenir comme des clous, 1 contre 6 ou 7, jusqu'à ce que l'empereur soit informé de la chose, et qu'il se replie à notre secours. Tenez, voilà déjà les officiers d'ordonnance qui partent. C'était vrai. 5 ou 6 officiers traversaient la plaine de Lutzen derrière nous, du côté de Leipzig. Et ils allaient comme le vent, et je suppliais le Seigneur dans mon âme de leur faire la grâce d'arriver à temps et d'envoyer toute l'armée à notre secours. Car d'apprendre qu'il faut périr, c'est épouvantable, et je ne souhaite pas à mon plus grand ennemi d'être dans une position pareille. Le sergent Pinto nous dit encore « Vous avez de la chance, conscrit. Si l'un ou l'autre de vous en échappe, il pourra se vanter d'avoir vu quelque chose de soigné. Regardez seulement ces lignes bleues qui s'avancent, le fusil sur l'épaule, le long du Flossgraben. Chacune de ces lignes est un régiment. Il y en a 30, ça fait 60 000 Prussiens, sans compter ces files de cavaliers qui sont des escadrons, et sur leur gauche, près du rempart, ces autres qui s'avancent et qui reluisent au soleil. Ce sont les dragons et les cuirassiers de la garde impériale russe. Je les ai vus pour la première fois à Austerlitz, où nous les avons joliment arrangés. Il y en a bien 18 à 20 000. Derrière ces masses de lances, ce sont des bandes de cosaques. De sorte que nous allons avoir l'avantage, dans une heure, de nous regarder le blanc des yeux avec 100 000 hommes. Tout ce qu'il y a de plus obstiné en russe et en prussien. C'est à proprement parler une bataille où l'on gagne la croix, et si on ne la gagne pas, on ne doit plus compter dessus. « Vous croyez, sergent ?» dit Zébédée qui n'avait jamais eu 2 idées claires dans la tête et qui se figurait déjà tenir la croix. Ses yeux reluisaient comme des yeux de bête qui voient tout en beau. « Oui, répondit le sergent, car on va se serrer de près. » Et supposons que dans la mêlée, on voit un colonel, un canon, un drapeau, quelque chose qui nous donne dans l'œil, on saute dessus à travers des coups de baïonnette, de sabre, de refouloir ou de n'importe quoi. On l'empoigne, et si l'on en revient, on est proposé. Pendant qu'il disait cela, l'idée me vint que le maire de Falsenbourg avait reçu la croix pour avoir emmené son village dans des voitures entourées de guirlandes, à la rencontre de Marie-Louise, en chantant de vieux Leeds. Et je trouvais sa manière d'avoir la croix bien plus commode que celle du sergent Pinto. Je n'eus pas le temps d'en penser davantage, car on battait le rappel de tous les côtés. Chacun courait au faisceau de sa compagnie et se dépêchait de prendre son fusil. Les officiers vous rangeaient en bataille, des canons arrivaient au grand galop du village, on les plaçait en haut de la colline, un peu en arrière, pour que le dos de la côte leur servît d'épaulement. Les caissons arrivaient aussi. Et plus loin, dans les villages de Hana, de Kaya et de Kleingorschen, tout s'agitait, mais nous étions les premiers sur lesquels devait tomber cette masse. L'ennemi s'était arrêté à 2 portées de canon, et ses cavaliers tourbillonnaient par centaines autour de la côte pour nous reconnaître. Rien qu'à voir au bord du Flossgraben cette quantité de Prussiens qui rendaient les deux rives toutes noires et dont les premières lignes commençaient à se former en colonne, je me dis à moi-même « Cette fois, Joseph, tout est perdu, tout est fini. Il n'y a plus de ressources. » Ce que tu peux faire, c'est de te venger, de te défendre, et de n'avoir pitié de rien. Défends-toi, défends-toi. » Comme je pensais cela, le général Cheminot passa seul à cheval devant le front de bataille en nous criant « Formez le carré !» Tous les officiers, à droite, à gauche, en avant, en arrière, répétèrent le même ordre. On forma 4 carrés de 4 bataillons chacun. Je me trouvais cette fois dans un des côtés intérieurs, ce qui me fit plaisir, car je pensais naturellement que les Prussiens qui s'avançaient sur 3 colonnes tomberaient d'abord en face. Mais j'avais à peine eu cette idée qu'une véritable grêle de boulets traversa le carré. En même temps, le bruit des canons que les Prussiens avaient emmenés sur une colline à gauche se mit à gronder bien autrement qu'à Faisenfels. Cela ne finissait pas. Ils avaient sur cette côte 30 de grosses pièces. On peut s'imaginer d'après cela quels trous ils faisaient. Les boulets sifflaient tantôt en l'air, tantôt dans les rangs, Tantôt ils entraient dans la terre, qu'ils rabotaient avec un bruit terrible. Nos canons tiraient aussi d'une manière qui vous empêchait d'entendre la moitié des sifflements et des ronflements des autres. Mais cela ne servait à rien. Et d'ailleurs, ce qui vous produisait le plus mauvais effet, c'était les officiers qui vous répétaient sans cesse « Serrez les rangs! Serrez les rangs !» Nous étions dans une fumée extraordinaire, sans avoir encore tiré. Je me disais « Si nous restons ici un quart d'heure, nous allons être massacrés sans pouvoir nous défendre. » Ce qui me paraissait terriblement dur, quand tout à coup, les premières colonnes de Prussiens arrivèrent entre les collines en faisant une rumeur étrange, comme une inondation qui monte. Aussitôt, les trois premiers côtés de notre carré, celui de face, et les deux autres en obliquant à droite et à gauche, firent feu. Dieu sait combien de Prussiens restèrent dans ce creux. Mais, au lieu de s'arrêter, leurs camarades continuèrent à monter en criant comme des loups. « Vaterland ! Vaterland !» et nous déchargeant tous leurs feux de bataillon à 100 pas, pour ainsi dire dans le ventre. Après cela commencèrent les coups de baïonnette et de crosse, car ils voulaient nous enfoncer. Ils étaient en quelque sorte furieux. Toute ma vie, je me rappellerai qu'un bataillon de ces Prussiens arriva juste de côté sur nous, en nous lançant des coups de baïonnette que nous rendions sans sortir des rangs, et qu'ils furent tous balayés par deux pièces qui se trouvaient en position à 50 pas derrière le carré. Aucune autre troupe ne voulut alors entrer dans les carrés. Ils redescendaient la colline et nous chargions nos fusils pour les exterminer jusqu'au dernier. Lorsque leurs pièces recommencèrent à tirer et que nous entendîmes un grand bruit à droite, c'était leur cavalerie qui venait pour profiter des trous que faisaient leurs canons. Je ne vis rien de cette attaque, car elle arrivait sur l'autre face de la division. Mais en attendant, les boulets nous raflaient par douzaines. Le général Cheminot venait d'avoir la cuisse cassée, et cela ne pouvait durer plus longtemps de cette manière, lorsqu'on nous ordonna de battre en retraite, ce que nous fîmes avec un plaisir que chacun doit comprendre. Nous passâmes autour de Grossgorschen, suivis par les Prussiens qui nous fusillaient, et que nous fusillions. Les 2000 hommes qui se trouvaient dans le village arrêtèrent l'ennemi par un feu roulant de toutes les fenêtres, pendant que nous remontions la côte pour gagner le second village, Kleingorschen. Mais alors, toute la cavalerie prussienne arriva de côté pour nous couper la retraite et nous forcer de rester sous le feu de leurs pièces. Cela me produisit une indignation qu'on ne peut croire. J'entendais Zébédé qui criait « Courons plutôt dessus que de rester là !» C'était aussi terriblement dangereux, car ces régiments de hussards et de chasseurs s'avançaient en bon ordre avant de prendre leur élan. Nous marchions toujours en arrière, quand en haut de la côte, on nous cria « Halte !» Et dans le même moment, les hussards qui couraient déjà sur nous reçurent une terrible décharge de mitraille qui les renversa par centaines. C'était la division du brave général Girard qui venait à notre secours, de Kleingorschen. Elle avait placé 16 pièces en batterie un peu à droite. Cela produisit un très bon effet. Les hussards s'en allèrent plus vite qu'ils étaient venus et les six carrés de la division Girard se réunirent avec les nôtres, à Kleingorschen, pour arrêter l'infanterie des Prussiens, qui s'avançait toujours, les trois premières colonnes en avant et trois autres aussi fortes derrière. Nous avions perdu Grossgorschen, mais cette fois, entre Kleingorschen et Rana, l'affaire allait encore devenir plus terrible. Moi, je ne pensais plus à rien qu'à me venger. J'étais devenu, pour ainsi dire, fou de colère et d'indignation, contre ceux qui voulaient m'ôter la vie, le bien de tous les hommes, que chacun doit conserver comme il peut. J'éprouvais une sorte de haine contre ces Prussiens, dont les cris et l'air d'insolence me révoltaient le cœur. J'avais pourtant un grand plaisir de voir encore Zébédé près de moi, et comme en attendant les nouvelles attaques, nous avions l'arme au pied, je lui serrai la main. « Nous avons eu de la chance, me dit-il, mais pourvu que l'empereur arrive bientôt, car ils sont 20 fois plus que nous, pourvu qu'il arrive avec des canons. » Il ne parlait plus d'attraper la croix. Je regardais un peu de côté pour voir si le sergent y était encore, et je l'aperçus qui essuyait tranquillement sa baïonnette. Sa figure n'avait pas changé, cela me réjouit. J'aurais bien voulu savoir si Klipfel et Furst se trouvaient aussi dans leur rang, mais alors le commandement de « porter armes » me fit songer à autre chose. Les trois premières colonnes ennemies s'étaient arrêtées sur la colline de Grossgorschen pour attendre les trois autres qui s'approchaient le fusil sur l'épaule. Le village, entre nous dans le vallon, brûlait. Les toits de chaume flambaient. La fumée montait jusqu'au ciel et sur une côte, à gauche, nous voyions arriver, à travers les terres de la bourre, une longue file de canons pour nous prendre en écharpe. Il pouvait être midi lorsque les six colonnes se mirent en marche et que sur les deux côtes de Grossgorschen, se déployèrent des masses de hussards et de chasseurs à cheval. Notre artillerie, placée en arrière des carrés, au haut de la côte, avait ouvert un feu terrible contre les canonniers prussiens qui lui répondaient sur toute la ligne. Nos tambours commençaient à battre dans les carrés pour avertir que l'ennemi s'approchait. On les entendait comme le bourdonnement d'une mouche pendant un orage. Et dans le fond du vallon, les Prussiens criaient tous ensemble « Vaterland ! Vaterland !» Leur feu de bataillon, en grimpant la colline, nous couvrait de fumée, parce que le vent soufflait de notre côté, ce qui nous empêchait de les voir. Malgré cela, nous avions commencé nos feux de fil. On ne s'entendait et l'on ne se voyait plus depuis au moins un quart d'heure, quand tout à coup, les hussards prussiens furent dans notre carré. Je ne sais pas comment cela s'était fait, mais ils étaient dedans, et tourbillonnaient à droite et à gauche en se penchant sur leurs petits chevaux pour nous hacher sans miséricorde. Nous leur donnions des coups de baïonnette, nous crions, ils nous lâchaient des coups de pistolet. Enfin, c'était terrible. Zébédé, le Sergio Pinto et une vingtaine d'autres de la compagnie, nous tenions ensemble. Je verrai toute ma vie ces figures pâles, les moustaches allongées, derrière les oreilles, les petits sacos serrés par la jugulaire, sous leurs mâchoires, les chevaux qui se dressaient en hennissant sur des tas de morts et de blessés. J'entendrai toujours les cris que nous poussions, les uns en allemand, les autres en français. Ils nous appelaient « Scheinpelz !» Et le vieux sergent Pinto ne finissait pas de crier « Hardi, mes enfants, hardi !» Je n'ai jamais pu me figurer comment nous sortîmes de là. Nous marchions au hasard dans la fumée, nous tourbillonnions au milieu des coups de fusil et des coups de sabre. Tout ce que je me rappelle, c'est que Zébédé me criait à chaque instant « Arrive, arrive !» et que finalement, nous fûmes dans un champ en pente, derrière un carré qui tenait encore, avec le sergent Pinto et 7 ou 8 autres de la compagnie. Nous étions faits comme des bouchers. « Rechargez !» nous dit le sergent Pinto. Et alors, en rechargeant, je vis qu'il y avait du sang et des cheveux au bout de ma baïonnette. Ce qui montre que dans ma fureur, j'avais donné des coups terribles. Au bout d'une minute, le vieux Pinto reprit. « Le régiment est en déroute. Ces gueux de Prussiens en ont sabré la moitié. Nous le retrouverons plus tard. Pour le moment, il faut empêcher l'ennemi d'entrer dans le village. Par fil à gauche, en avant, marche !» Nous descendîmes un petit escalier qui menait dans un jardin de Kleingorschen et nous entrâmes dans une maison dont le sergent barricada la porte du côté des champs avec une grande table de cuisine. Ensuite, il dit, en nous montrant la porte de la rue, « Voici notre retraite. » Après cela, nous montâmes au premier dans une assez grande chambre qui formait le coin au pied de la côte. Elle avait 2 fenêtres sur le village et 2 autres sur la colline, toutes couvertes de fumée, où continuaient de pétiller les feux de fil et de rouler le canon. Au fond, dans une alcôve, se trouvait un lit défait, et devant le lit, un berceau. Les gens s'étaient sauvés sans doute en commencement de la bataille. Mais un chien à grosse queue blanche, oreilles droites et museau pointu, à moitié caché sous les rideaux, nous regardait les yeux luisants. Tout cela me revient comme un rêve. Le sergent venait d'ouvrir une fenêtre, et tirait déjà dans la rue, où s'avançaient 2 ou 3 hussards prussiens, parmi des tas de charrettes et de fumier. Zébédé et les autres, debout derrière lui, observaient l'arme prête. Je regardai sur la côte pour voir si le carré tenait toujours, et je l'aperçus à 500 ou 600 pas, reculant en bon ordre, et faisant feu des 4 côtés sur la masse de cavaliers qui l'entouraient. À travers la fumée, je voyais le colonel, à un gros cours, à cheval au milieu, le sabre à la main, et, tout près de lui, le drapeau tellement déchiré que ce n'était plus qu'une loque pendant le long de la hampe. Plus loin, à gauche, une colonne ennemie débouchait au tournant de la route et marchait sur Kleingorschen. Cette colonne voulait se mettre en travers de notre retraite dans le village. Mais des centaines de soldats débandés étaient arrivés comme nous. Il en arrivait même encore de tous les côtés, les uns se retournant tous les 50 pas pour lâcher leurs coups de fusil, les autres blessés, se traînant pour arriver quelque part. Ils entraient dans les maisons et comme la colonne s'approchait toujours, un feu roulant commença sur elle de toutes les fenêtres. Cela l'arrêta d'autant plus qu'au même instant, sur la côte à droite, commençaient à se déployer les divisions Brenier et Marchand que le prince de la Moscova envoyait à notre secours. Nous avons su depuis que le maréchal Ney avait suivi l'empereur du côté de Leipzig et qu'il revenait alors au roulement du canon. Les Prussiens firent donc halte en cet endroit. Le feu cessa des 2 côtés. Nos carrés et nos colonnes remontèrent la côte en face de Starzidel. Et tout le monde au village se dépêcha d'évacuer les maisons pour rallier chacun son régiment. Le nôtre était mêlé dans deux ou trois autres, et quand les divisions mirent l'arme au pied en avant de Kaya, nous eûmes de la peine à nous reconnaître. On fit l'appel de notre compagnie. Il restait 42 hommes. Le grand Fürst et Léger n'y étaient plus. Mais Zébédé, Klipfel et moi, nous avions retiré notre peau de l'affaire. Malheureusement, ce n'était pas encore fini, car ces Prussiens remplis d'insolence, à cause de notre retraite, faisaient déjà de nouvelles dispositions pour venir nous attaquer à Kaya. Il leur arrivait des masses de renforts, et voyant cela, je pensais que, pour un si grand général, l'empereur avait eu pourtant une bien mauvaise idée de s'étendre sur Leipzig et de nous laisser surprendre par une armée de plus de 100 000 hommes. Comme nous étions en train de nous reformer derrière la division Brenier, 18 000 vieux soldats de la garde prussienne montaient la côte au pas de charge, portant les sacos de nos morts au bout de leurs baïonnettes en signe de victoire. En même temps, le combat se prolongeait à gauche entre Kleingorschen et Starzidel. La masse de cavalerie russe que nous avions vue reluire au soleil du matin, derrière la Grenabare, voulait nous tourner. Mais le 6e corps était arrivé nous couvrir, et les régiments de marine tenaient là, comme des murs. Toute la plaine ne formait qu'un nuage, où l'on voyait étinceler les casques, les cuirasses et les lances par milliers. De notre côté, nous reculions toujours, quand tout à coup, quelque chose passa devant nous comme le tonnerre. C'était le maréchal Ney. Il arriva au grand galop, suivi de son état-major. Je n'avais jamais vu de figure pareille. Ses yeux étincelaient, ses joues tremblaient de colère. En une seconde, il eut parcouru toute la ligne dans sa profondeur et se trouva sur le front de nos colonnes. Tout le monde le suivait, comme entraîné par une force extraordinaire. Au lieu de reculer, on marchait à la rencontre des Prussiens. Et 10 minutes après, tout était en feu. Mais l'ennemi tenait solidement. Il se croyait déjà le maître et ne voulait pas lâcher la victoire. D'autant plus qu'il recevait toujours du renfort, et que nous autres, nous étions épuisés par 5 heures de combat. Notre bataillon, cette fois, se trouvait en seconde ligne. Les boulets passaient au-dessus, mais un bruit bien pire, et qui me traversait les nerfs, c'était le grelottement de la mitraille dans les baïonnettes. Cela sifflait, comme une espèce de musique terrible, et qui s'entendait de bien loin. Au milieu des cris, des commandements et de la fusillade, nous recommencions tout de même à redescendre, sur un tas de morts. Nos premières divisions rentraient à Kleingorschen. On s'y battait corps à corps. On ne voyait dans la grande rue du village que des crosses de fusils en l'air et des généraux à cheval, l'épée à la main, comme de simples soldats. Cela dura quelques minutes. Nous disions dans les rangs « ça va bien, on avance !» Mais de nouvelles troupes étaient arrivées du côté des Prussiens. Nous fûmes obligés de reculer pour la seconde fois, et malheureusement si vite qu'un grand nombre se sauvèrent jusque dans Kaya. Ce village était sur la côte, et le dernier en avant sur la route de Lutzen. C'est un long boyau de maisons, séparés les unes des autres par des petits jardins, des écuries et des ruchers. Si l'ennemi nous forçait à Kaya, l'armée était coupée en deux. En courant, je me rappelais ces paroles de M. Goulden. Si par malheur les alliés nous battent, ils viendront se venger chez nous de tout ce que nous leur avons fait depuis 10 ans. Je croyais la bataille perdue, car le maréchal Ney lui-même, au milieu d'un carré, reculaient. Et les soldats, pour sortir de la mêlée, emportaient des officiers blessés sur leurs fusils en brancard. Enfin, ça prenait une mauvaise tournure. J'entrais dans Kaya sur la droite du village, en enjambant des haies et sautant par-dessus des petites palissades que les gens mettaient pour séparer les jardins. J'allais tourner le coin d'un hangar, lorsque, levant la tête, j'aperçus une 50aine d'officiers à cheval arrêtés en haut d'une colline en face. Plus loin, derrière eux, des masses d'artillerie accouraient, ventre à terre sur la route de Leipzig. Cela me fit regarder, et je reconnus l'empereur, un peu en avant des autres. Il était assis, comme dans un fauteuil, sur son cheval blanc. Je le voyais très bien sous le ciel pâle. Il ne bougeait pas, et regardait la bataille au-dessous, avec sa lunette. Cette vue me rendit si joyeux que je me mis à crier « Vive l'empereur !» de toutes mes forces. Puis j'entrai dans la grande rue de Kaya, par une allée entre deux vieilles maisons. Et j'aperçus encore des gens du village, hommes, femmes, enfants, qui se dépêchaient d'entrer dans leur cave. Plusieurs personnes auxquelles j'ai raconté cela m'ont fait des reproches d'avoir couru si vite, mais je leur ai répondu que lorsque Michel Ney reculait, Joseph Bertha pouvait bien reculer aussi. Klipfel, Zébédé, le sergent Pinto, tous ceux que je connaissais à la compagnie étaient encore dehors, et j'entendais un bruit tellement épouvantable qu'on ne peut s'en faire une idée. Des masses de fumée passaient par-dessus les toits. Les tuiles roulaient, tombaient dans la rue, et les boulets enfonçaient les murs ou cassaient les poutres avec un fracas horrible. En même temps, de tous côtés, par les ruelles, par-dessus les haies et les palissades des jardins, entraient nos soldats en se retournant pour faire feu. Il y en avait de tous les régiments, sans sacco, déchirés, couverts de sang, l'air furieux, et maintenant que j'y pense, après tant d'années, c'étaient tous des enfants, de véritables enfants. Sur 15 ou 20, pas un n'avait de moustache, mais le courage est né dans la race française. Et comme les Prussiens, conduits par de vieux officiers qui criaient « Vorwärts, vorwärts !» arrivaient en se grimpant en quelque sorte sur le dos comme des bandes de loups pour aller plus vite, nous, au coin d'une grange, un 20 ou 30, en face d'un jardin où se trouvait un petit rucher et de grands cerisiers en fleurs qu'il me semble voir encore, nous commençâmes à un feu roulant sur ces gueux qui voulaient escalader un petit mur au-dessous et prendre le village. Combien d'entre eux, en arrivant sur ce mur, retombèrent dans la masse, je n'en sais rien. Mais il en venait toujours d'autres. Des centaines de balles sifflaient à nos oreilles et s'aplatissaient contre les pierres. Le crépi tombait, la paille pendait des poutres. La grande porte à gauche était criblée et nous, derrière la grange, après avoir rechargé, nous faisions la navette pour tirer dans le tas. Cela durait juste le temps d'ajuster et de serrer la détente. Et malgré cela, 5 ou 6 étaient déjà tombés au coin du fenil. Le nez à terre, mais notre rage était si grande que nous n'y faisions pas attention. Comme je me retournais là pour la 10e fois, en épaulant, le fusil me tomba de la main. Je me baissai pour le ramasser et je tombai dessus. J'avais une balle dans l'épaule gauche. Le sang se répandait sur ma poitrine comme de l'eau chaude. J'essayai de me relever, mais tout ce que je pus faire, ce fut de m'asseoir contre le mur. Alors, le sang descendit jusque sur mes cuisses. Et l'idée me vint que j'allais mourir en cet endroit, ce qui me donna tout froid. Les camarades continuaient à tirer par-dessus ma tête et les Prussiens répondaient toujours. En songeant qu'une autre balle pouvait m'achever, je me cramponnais tellement de la main droite au coin du mur pour m'ôter de là que je tombais dans un petit fossé qui conduisait l'eau de la rue dans le jardin. Mon bras gauche était lourd comme du plomb. Ma tête tournait. J'entendais toujours la fusillade, mais comme un rêve. Cela dura quelque temps sans doute. Lorsque je rouvris les yeux, la nuit venait. Les Prussiens défilaient dans la ruelle en courant. Ils remplissaient déjà le village. Et, dans le jardin en face, se trouvait un vieux général, la tête nue, les cheveux blancs, sur un grand cheval brun. Il criait comme une trompette, d'amener des canons, et des officiers partaient, ventre à terre, porter ses ordres. Près de lui, debout sur le petit mur encombré de morts, un de leurs chirurgiens lui bandait le bras. Derrière, de l'autre côté, se tenait également à cheval un officier russe très mince, un jeune homme coiffé d'un chapeau à plumes vertes tombant en forme de bouquet. Je vis cela d'un coup d'œil. Ce vieux avec son gros nez, son front large et plat, ses yeux vifs, son air hardi, les autres autour de lui, le chirurgien, un petit homme chauve en lunettes et dans le fond de la vallée, à 500 ou 600 pas, entre deux maisons, nos soldats qui se reformaient. Tout cela, je l'ai devant moi, comme si j'y étais encore. On ne se tirait plus. Mais entre Kleingorschen et Kaya, des cris terribles s'élevaient. On entendait rouler pesamment, hennir, jurer et claquer du fouet. Sans savoir pourquoi, je me traînais hors de l'ornière et me remis contre le mur. Et presque aussitôt, 2 pièces de 16, attelées chacune de 6 chevaux, tournèrent au coin de la première maison du village. Les artilleurs à cheval frappaient de toutes leurs forces et les roues entraient dans les tas de morts et de blessés comme dans de la paille. Les os craquaient. Voilà d'où venaient des grands cris que j'avais entendus. Les cheveux m'en dressaient sur la tête. « Ici !» cria le vieux en allemand. « Pointez là-bas, entre ces 2 maisons, près de la fontaine. » Les 2 pièces furent aussitôt retournées. Les voitures de poudre et de mitraille arrivèrent au galop. Le vieux vint voir, son bras gauche en écharpe, et tout en remontant la ruelle, je l'entendis qui disait au jeune officier russe, d'un ton bref, « Dites à l'empereur Alexandre que je suis dans Kaya. La bataille est gagnée, si on m'envoie des renforts. Qu'on ne délibère pas, qu'on agisse. Il faut nous attendre à une attaque furieuse. Napoléon arrive, je sens cela. Dans 1 demi-heure, nous l'aurons sur les bras avec sa garde. Coûte que coûte, je lui tiendrai tête. Mais au nom de Dieu, qu'on ne perde pas 1 minute, et la victoire est à nous. » Le jeune homme partit au galop du côté de Kleingorschen, et dans le même instant,
Quelqu'un dit près de moi. Ce vieux-là, c'est Blureur. Ah, gredin, si je tenais mon fusil. Ayant tourné la tête, je vis un vieux sergent sec et aigre, avec de grandes rides le long des joues, qui se tenait assis contre la porte de la grange, les deux mains appuyées à terre, comme des béquilles, car ses reins étaient cassés par une balle. Ses yeux jaunes suivaient le général prussien en louchant. Son nez crochu, déjà pâle, se recourbait comme un bec dans ses grosses moustaches. Il avait l'air terrible et fier. « Si je tenais mon fusil, dit-il encore une fois, tu verrais si la bataille est gagnée. » Nous étions les seuls êtres encore vivants dans ce coin encombré de morts. Moi, songeant qu'on allait peut-être m'enterrer le lendemain avec tous ces autres dans le jardin en face et que je ne reverrais plus Catherine, des larmes me coulaient sur les joues. Et je ne puis m'empêcher de dire « Maintenant tout est fini. » Le sergent alors me regarda de travers et voyant que j'étais encore si jeune, il me demanda « Qu'est-ce que tu as, conscrit ?»« Une balle dans l'épaule, mon sergent. » « Dans l'épaule, ça vaut mieux que dans les reins, on peut en échapper !» Et d'une voix moins rude, après m'avoir considéré de nouveau, il ajouta « Ne crains rien, va, tu reverras le pays. » Je pensais qu'il avait pitié de ma jeunesse et qu'il voulait me consoler, mais je sentais ma poitrine comme fracassée, et cela m'ôtait tout espoir. Le sergent ne dit plus rien, seulement, de temps en temps, il faisait un effort pour dresser la tête et voir si nos colonnes arrivaient. Il jurait entre ses dents et finit par se laisser glisser l'épaule dans le coin de la porte en disant « Mon affaire est faite, mais le grand gueux me l'a payé tout de même. » Il regardait dans la haie en face où se trouvait étendu sur le dos un grenadier prussien, la baïonnette encore en travers du ventre. Il pouvait être alors 6 heures. L'ennemi occupait toutes les maisons, les jardins, les vergers, la grande rue et les ruelles. J'avais froid par tout le corps, et je m'étais engourdi, le front sur les genoux, quand le roulement du canon m'éveilla de nouveau. Les deux pièces du jardin, et plusieurs autres derrière, placées plus haut dans le village, tiraient en jetant leurs éclairs dans la grande rue, où se pressaient les Prussiens et les Russes. Toutes les fenêtres tiraient aussi. Mais cela n'était rien en comparaison du feu des Français sur la colline en face. Dans le fond, en dessous, montait la jeune garde en colonne serrée, au pas de charge, les colonels, les commandants et les généraux à cheval au milieu des baïonnettes, l'épée en l'air. Tout cela gris, éclairé de seconde en seconde par la lumière des 80 pièces que l'empereur avait fait mettre en une seule batterie pour appuyer le mouvement. Ces 80 pièces faisaient un fracas terrible, et malgré la distance, la vieille cassine contre laquelle je m'appuyais en tremblait jusque dans ses fondements. Dans la rue, les boulets enlevaient des fils de Prussiens et de Russes comme les coups de faux enlèvent l'herbe. C'était leur tour de serrer les rangs. J'entendais aussi derrière nous l'artillerie ennemie répondre et je pensais « mon Dieu, pourvu que maintenant les Français l'emportent, leurs pauvres blessés seront recueillis, au lieu que ces Prussiens et ces Cosaques songeraient d'abord aux leurs et nous laisseraient tous périr. » Je ne faisais plus attention aux sergents. Je ne regardais que les canonniers prussiens charger leurs pièces, pointer et tirer, en les maudissant au fond de mon âme. Et j'écoutais avec ravissement les cris de « Vive l'Empereur !» qui commençaient à monter de la vallée et qu'on entendait dans l'intervalle des détonations de l'artillerie. Enfin, au bout de 20 minutes, les Prussiens et les Russes se mirent à reculer. Ils repassaient en foule par la ruelle où nous étions pour se jeter sur la côte. Les cris de « Vive l'Empereur !» se rapprochaient. Les canonniers devant nous se dépêchaient comme des forcenés, quand 3 ou 4 boulets arrivèrent cassant une roue et les couvrant de terre. Une pièce tomba sur le côté. 2 artilleurs étaient tués et 2 blessés. Alors je sentis une main me prendre par le bras. Je me retournai et je vis le vieux sergent à demi-mort qui me regardait en riant d'un air farouche. Le toit de notre baraque s'affaissait, le mur penchait. Mais nous n'y prenions pas garde. Nous ne voyions que la défaite des ennemis et nous n'entendions, au milieu de tout ce fracas épouvantable, que les cris toujours plus proches de nos soldats. Tout à coup, le sergent tout pâle dit « Le voilà !» Et penché en avant sur les genoux, une main à terre et l'autre levée, il cria d'une voix éclatante « Vive l'Empereur !» Puis il tomba la face à terre et ne remua plus. Et moi, me penchant aussi pour voir, je vis Napoléon, qui montait dans la fusillade, son chapeau enfoncé dans sa grosse tête, sa capote grise ouverte, un large ruban rouge en travers de son gilet blanc, calme, froid, comme éclairé par le reflet des baïonnettes. Tout pliait devant lui. Les canonniers prussiens abandonnaient leurs pièces et sautaient le mur du jardin, malgré les cris de leurs officiers qui voulaient les retenir. Ces choses, je les ai vues. Elles sont restées comme peintes en feu dans mon esprit. Et depuis ce moment, je ne me rappelle plus rien de la bataille, car dans l'espérance de notre victoire, j'avais perdu le sentiment, et j'étais comme un mort au milieu de tous ces morts.